rabbin Yann Boissière, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour du grand projet de cette journée interconvictionnelle du 22 mars 2016 qui se tiendra dans les salons de l'Hôtel de Ville de la mairie de Paris. Absolument. Dans la première émission, nous avons montré la complexité du mot conviction et l'analyse que nous en avons faite nous a permis de montrer comment les idées portées par ce mot rencontraient de manière précise les différents moments de cette journée et son esprit même, accueil et hospitalité, débat, création musicale, remise d'un prix et banquet républicain. Absolument. C'est-à-dire une façon de pouvoir se réunir ensemble dans cette tension féconde, ensemble, dans le respect des différences. Et si nous reprenons la distinction que fait Ricoeur entre l'éthique et la morale, la première étant la finalité et la seconde les moyens d'y parvenir, le moment est venu de nous demander quelle est la morale de cette éthique, de la vie partagée, de cette conviction telle que nous l'avons comprise. Sur quoi repose la possibilité de ce partage républicain ? Je dirais que le fondement moral de cette éthique, du partage, est la laïcité. Laïcité fait partie de ces mots, comme liberté par exemple, qui, dit Paul Valéry, que j'ai entendu citer par Abdennour Bidar, ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent. De ces mots qui ont fait tous les métiers, dit-il, et desquels la mémoire est barbouillée de théologie, de métaphysique, de morale et de politique, mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu'aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. Il nous incombe dès lors, rabbin Boissière, de revenir au sens du mot lui-même. Et comme nous avions fait pour la conviction, nous ouvrons notre dictionnaire et nous découvrons une chose, je pense que tout le monde le sait, mais c'est bien de le préciser, que le mot laïcité est relativement moderne, dérivé du mot laïque, du latin laïcus, dérivé lui-même de laïcos, de laos, qui signifie le peuple.
Absolument.
Et les laïcs, je cite le dictionnaire de l'instruction publique de 1911, les laïcs, c'est le peuple, c'est la masse non mis à part, c'est tout le monde, les clercs exceptés, et l'esprit laïque, c'est l'ensemble des aspirations du peuple, du Laos, c'est l'esprit démocratique et populaire. Et cette idée de peuple inspire les articles de la Constitution de manière essentielle, le sens de cette laïcité depuis la loi 1905 est la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire, la laïcité ne consiste pas à séparer l'homme de la religion, mais à séparer le religieux de l'État et de ses institutions. Et je crois que cela est extrêmement important, rabbin Boissière.
Absolument, il y a énormément de choses très très importantes dans tout ce que vous venez de dire. En premier lieu, vous on avait évoqué ça dans la première émission, convictor, le fait d'inviter, c'est toute cette journée par exemple interconvictionnelle est possible parce que la mairie nous invite en tant que lieu central et républicain. Il faut toujours un espace qui précède la rencontre pour rendre cette rencontre possible et c'est absolument au cœur du projet que ce lieu soit précisément un lieu républicain et laïque. C'est d'ailleurs le sens. Il y a bien des sens, le sens artistique, il y a bien des valeurs dans cette journée, mais la première des valeurs, c'est d'affirmer notre lien à la République et à la laïcité. Ça, c'est absolument fondamental. La deuxième chose, c'est de comprendre que la laïcité n'est pas une conviction. La laïcité est une norme d'organisation, et vous l'avez souvenir, des pouvoirs publics. C'est-à-dire que dans la Constitution, il y a la République et un certain nombre de choses, laïque, démocratique, sociale et indivisible, bien sûr. Donc c'est une norme qui s'applique à tous. Ce n'est pas discutable, et c'est ça que nous avons envie, une norme, ça s'applique. Je suis personnellement militant d'une définition totalement plate de la laïcité, lui donner le moins d'épaisseur convictionnelle possible, parce que je pense que la puissance de l'idée de laïcité est précisément dans le fait qu'elle soit une norme totalement plate, qui permette un espace vide, ou puis qui peut être investi par des acteurs qui sont porteurs de convictions. Mais il est très important de garder cette différence logique entre normes juridiques, laïques, qui s'appliquent à l'État, qui permet justement la rencontre, et c'est la force de l'idée de laïcité. Et à ce terme, vous avez souligné une troisième chose qui effectivement est souvent confondue dans l'esprit parfois. La laïcité ne s'oppose mais absolument pas à religieux. Moi, je me définis de plein de manières différentes, parce qu'on n'est jamais renvoyé à sa seule identité, ou plutôt les identités de chacun sont multiples. Pour n'en prendre que deux, je m'affirme citoyen français, juif et laïque. Si, et je suis laïque parce que je reconnais la laïcité comme ma norme, la norme qui organise l'État dans lequel je vis. Donc, évidemment, il n'y a aucune contradiction, et je dirais même que la laïcité permet, justement, c'est ce qui permet cet espace vide, qui permet l'expression des différentes convictions. Et s'il m'est permis d'ajouter un mot, la laïcité pour moi est quelque chose de très simple. Alors, il est de bon ton dans les débats actuels, et c'est très bien qu'ils aient lieu, de considérer la laïcité comme quelque chose de compliqué, d'adjectivé. On l'a dit parfois ouverte, on l'a dit restreinte, positive. On l'a dit positive. Je milite en tout cas pour une définition qui me semble dérivée des textes. La laïcité pour moi est extrêmement simple, ce sont deux principes et deux moyens. Les principes, c'est d'abord le principe de la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, et le deuxième principe, la non-discrimination de l'État vis-à-vis de ses citoyens en fonction de leurs croyances ou de leurs non-croyances. Ça, ce sont les deux principes. Les deux moyens mis en œuvre, entre autres par la loi de 1905, ce sont la séparation des églises et de l'État et la neutralité des pouvoirs publics. Mais ce sont des moyens qu'il ne faut pas confondre par les fins. Les deux valeurs fondamentales, les deux définitions fondamentales, c'est la non-discrimination et la liberté de conscience. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir de la laïcité. Je dirais que parfois on nous propose des interprétations de la laïcité qui pour moi sont des plus dérivées d'agenda politique, et ils sont légitimes, on peut vouloir faire bouger les lignes, mais c'est une malhonnêteté intellectuelle que de les présenter comme des interprétations de la laïcité, notamment la laïcité positive, ouverte ou tout ça, sont plus des agendas que des interprétations. La laïcité, c'est très simple, c'est la liberté de conscience, la non-discrimination. Point.
Mais je pense que le fait que dans la Constitution, qui nous dit que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale, comme le disent les interprètes éclairés, je pense à Jean Bobéraud qui sera présent dans cette journée.
Absolument.
Il faut à chaque fois mettre chaque terme en relation avec l'autre, en comprendre le trajet, l'intelligibilité, laïque et indivisible. Et le fait que nous ayons traduit laïque par le terme de laos, par le peuple, indivisible justement parce que le peuple est indivisible dans la mesure où il n'y a pas cette ségrégation, si on peut dire, en fonction de la religion, de l'ethnie, de la couleur ou autre chose. Démocratique, ben nécessairement démocratique, parce que démos, c'est le peuple en grec, et donc démocratique, c'est le synonyme de laos, qui veut dire le peuple, mais ça veut dire aussi c'est le peuple qui décide, parce que il a la possibilité par son vote de nommer ses représentants. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir qui vient d'en haut, c'est pas un pouvoir qui vient de Dieu, c'est pas un pouvoir héréditaire, c'est véritablement le peuple qui décide de son propre destin. Et laïque et social, ben dans la mesure où c'est le peuple par le peuple pour le peuple, c'est quelque chose qui est pour la société. Oui, allez-y.
Je pense que ce que vous êtes en train de dire est très important et peut être interprété dans deux directions différentes. Et les deux différentes opposées sont tout aussi importantes. D'abord, effectivement, la laïcité seule serait quelque chose de sec. C'est d'ailleurs une de ses vertus, bizarrement. C'est une abstraction extrêmement difficile à comprendre que cette laïcité. C'est une espèce d'aveuglement volontaire de l'État. Et c'est cet aveuglement qui permet justement un espace vide investissable par les différentes convictions. Mais évidemment, tout cela ne vit que si l'on met en rapport avec des choses différentes, le côté économique, le côté social. Ça, c'est une première direction. Une deuxième direction, et ça dit bien quelque chose qui, à mon avis, est très actuel dans le débat actuel, si on a eu besoin de quatre adjectifs pour qualifier cette République indivisible, laïque, sociale et démocratique, c'est que la laïcité ne peut pas porter non plus à elle seule la charge de tous les problèmes. Elle dit bien qu'il y a différentes dimensions qui doivent être travaillées dans des problèmes sociaux qu'il est facile que chacun a en tête, à savoir que il y a le côté social, il y a le côté économique, il y a le côté laïque aussi, mais que la laïcité ne peut pas assumer à elle seule la charge de tout. Et c'est un défaut parfois qu'on a tendance à l'attribuer. Donc évidemment, il faut un lien avec les autres dimensions, parce que ça c'est l'intelligence de la laïcité, et en même temps savoir donner des définitions relativement étroites pour mieux serrer les problèmes et mieux les traiter.
Alors cette journée du 22 mars, désire faire la preuve que la religion, loin d'être un obstacle à la laïcité, ou un ennemi à abattre, peut être non seulement indispensable à cette laïcité, la religion est un interlocuteur à considérer dans l'espace laïque comme toutes les autres voies d'intelligence. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui, dans la religion dont vous êtes l'un des représentants, Rabbin Boissière, le judaïsme, participe, concourt, contribue à apporter des éléments de pensée sur la liberté de conscience, son autonomie, sur la nécessité du débat? Autrement dit, bien qu'elle ne soit pas nommée comme telle, est-ce que la laïcité est présente au sein même du judaïsme? En quels termes est-elle formulée? Va-t-elle aussi loin et peut-être plus que la laïcité que vous venez d'évoquer, Rabbin Boissière?
C'est un véritable défi que vous me posez parce que Jonas proposait la philosophie en moins de 52 minutes, je ne sais plus quel était le ratio, mais alors là, la laïcité au sein de la pensée de la tradition juive, c'est effectivement un thème récurrent qui n'est pas nommé tel quel. Je ne dirais pas que le judaïsme a inventé la laïcité, mais il y a effectivement une pensée profondément laïque. Peut-être même Dieu est-il lui-même sinon laïque, peut-être a voulu la laïcité. Je faisais rire la dernière fois une audience de syndicalistes en disant que le droit de grève était divin, parce que finalement le premier à l'avoir imposé, c'est Dieu lui-même. Il se retire de sa création pour se
Pour cesser,
Shabbat, la Shvita, la grève en hébreu moderne, Dieu se soucie d'une vie organisée pour les hommes. Mais il y a, je dirais, une vertu profondément laïque à l'existence même de ce monde pour notre tradition, à savoir que finalement le monde n'est créé parce que Dieu accepte quelque part de se retirer un peu de sa toute-puissance pour créer autre chose que lui-même. Et quand on pense que les rabbins, ce sont juste des petites étincelles que je diffuse ici, il faudrait pouvoir développer, mais les rabbins du Talmud appellent Dieu à Makom, le lieu. C'est-à-dire que finalement, on conçoit le monde non pas tellement comme le lieu où Dieu investirait de sa toute puissance pour éclater de sa lumière, etc., mais précisément dans son retrait pour créer quoi ? À Makom, un lieu. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, sinon le principe même spirituel, quelque part, de la laïcité ? À savoir, accepter, je le dis de manière très simple, accepter de faire un petit pas en arrière sur ses identités, sur ses revendications, sur ce que l'on est, qui est si important pour nous, certes, mais pour laisser aussi un peu d'espace à l'autre, pour créer l'espace de la rencontre. La laïcité, en dehors des lois qui la définissent, c'est ça. C'est simplement pour vivre ensemble, au sens du verbe, là, ce n'est pas le mot, on s'était promis de ne pas le prononcer, mais pour arriver à vivre ensemble et pas seulement coexister, c'est que chacun accepte aussi de faire un petit pas en arrière pour découvrir le visage de l'autre. Et il y a donc dans cette façon dont nous envisageons Dieu dans la tradition juive, quelque chose de cet ordre-là, du retrait permanent. Je ne citerai pas Dieu qui nous demande de construire un sanctuaire pour habiter au milieu de nous. Les rabbins soulignent l'incongruité du texte, c'est-à-dire qu'il faudrait construire un temple où Dieu n'habite pas. Oui. Parce que Dieu n'habite qu'au sein des hommes et que dans leur relation. Ce qui intéresse Dieu, quelque part, c'est que les hommes aient des rapports entre eux et Dieu n'existe que là où les hommes se parlent.
Alors, je pense justement, en vous écoutant, à cette citation de Lévinas que j'avais déjà évoquée ici avec Dan Arbib. Je lis le texte de Lévinas que je crois absolument central dans notre réflexion et dans cette journée interconvictionnelle. Lévinas écrit « Pourquoi votre Dieu, qui est le Dieu des pauvres, ne nourrit-il pas les pauvres ?» demande, d'après le traité Baba Batra, un Romain à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva répond « Pour que nous ne soyons pas voués à l'enfer, c'est à l'homme de sauver l'homme. La façon divine de réparer la misère consiste à ne pas y faire intervenir Dieu. La vraie corrélation entre l'homme et Dieu dépend d'une relation d'homme à homme dont l'homme assume la pleine responsabilité comme s'il n'y avait pas de Dieu sur qui compter. » Et Lévinas conclut, état d'esprit conditionnant le laïcisme, même moderne, il ne se présente pas comme résultat d'un compromis, mais comme le terrain naturel des plus grandes œuvres de l'esprit. Et vous avez cité Dieu est laïque, et c'est, je me souviens que c'était le titre d'un article de Joseph Massescaron dans Marianne, Dieu est laïque.
Oui, tout à fait. En tout cas, il aime la laïcité et il laisse les hommes, il y a mille façons de le dire, en sompré malanès, nous ne comptons pas sur les miracles, il faut agir dans le monde comme s'il n'y avait pas Dieu. Ça, c'est la position du croyant au sens du judaïsme. Ne jamais tenir Dieu comme ce le laisser se substituer à nous-mêmes. Et donc nous avons tout à créer. C'est le sens même du repos, du retrait divin, le huitième jour. Il faut organiser un petit espace quand même pour que les hommes existent. Mais dès le septième jour, c'est terminé cette histoire. Nous sommes dans le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans l'histoire pleinement humaine. Et la manière dont l'homme, pour le croyant en tout cas, peut remettre Dieu, le rendre un petit peu visible, c'est à travers les belles actions qu'il fait pour améliorer le monde de manière humaine.
Rabbin Boissière, voilà une fort belle chanson pour saluer les voix de la paix, le titre de cette journée du 22 mars. La dernière phrase dit « On est fou de faire la guerre ».
Oui, je dois dire que déjà c'est assez émouvant d'écouter cette musique que j'avais pas écoutée depuis longtemps, Dire Straits, c'est absolument magnifique, ça me tire les larmes aux yeux, ce son de guitare notamment, à la fois moelleux, percutant, enfin c'est très très beau tout simplement, et effectivement on entend aussi cette tonalité de paix. Les voies de la paix, c'est bien le thème de la journée, parce qu'au-delà des questions de laïcité et des convictions de chacun, le but c'est de consolider cette paix sociale qui est sans cesse à rechercher et sans cesse soumis à des défis nouveaux.
Alors vous dites paix sociale, la paix c'est en hébreu shalom, c'est la sérénité, la plénitude, la dimension économique aussi, puisque le shalem c'est payer, et c'est aussi la paix sociale. C'est une expression que l'on trouve d'ailleurs dans l'intitulé de la deuxième table ronde de cette journée, qui est « Quelles propositions les diverses familles spirituelles sont-elles prêtes à avancer pour la paix sociale ?» Nous sommes bien dans le concret de l'agir, dans le « naasé » dont nous avons parlé. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par paix sociale, d'une part, et quel type de propositions attendez-vous de ces représentants religieux ? Je signale que dans cette table ronde, il y aura le grand rabbin de France, Chaim Korsia, Tarek Obrou, Antoine Guggenheim, Daniel Keller, et la table ronde sera modérée par Lélie Anvar, rabbin Boissière.
Absolument, on attend beaucoup. Alors en même temps, c'est une journée qui sera prolongée par des actions sans doute plus de terrain, mais c'est vrai que j'ai un espoir. Je peux pas parler à la place des acteurs, mais c'est au cœur d'une des convictions de cette journée que les traditions spirituelles, religieuses ou non religieuses, ont quelque chose à apporter à la société et à la paix sociale. Alors parfois, on m'a fait cette réflexion, mais paix sociale, ça veut dire qu'on serait en guerre ? Pas du tout, mais je pense que à minima, tout le monde conviendra que la paix sociale doit être doit être consolidée. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de chacun. Et c'est vrai que j'espère des propositions concrètes. On l'a peut-être oublié, mais avant que la modernité, au sens moderne, fin 17e ou 18e, n'organise les sociétés libérales sur, comme le disait très bien Lévinas, en dehors des questions métaphysiques, il y a les traditions religieuses ont réfléchi quand même quelques milliers d'années sur ce que cela voulait dire que d'être ensemble, que la finalité de l'homme. Ce sont des questions qu'on a un petit peu évacuées et j'ai la conviction que les traditions spirituelles peuvent apporter quelque chose. Alors après, est-ce que ça donnera des propositions de loi? Je sais pas. On a parlé de jours fériés communs. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Je veux pas du tout prendre parti là-dessus. Mais c'est ce genre de choses concrètement que les traditions pourraient proposer dans le domaine de la vie en entreprise. Des guidelines. On sait qu'il y a une zone du droit. L'entreprise est de droit privé, mais les pratiques religieuses deviennent chaque jour plus importantes. Souvent, les directeurs de la diversité, ce poste nouveau que les grandes entreprises ont créé, sont en grand désarroi. Il y a besoin de guidance, il y a besoin de réfléchir ensemble sur ces questions-là. Il y a de nombreux endroits où, de la société où, je pense, les traditions spirituelles, en lien avec les pouvoirs publics, en lien avec tous les acteurs concernés, ont des choses précises à proposer. On parlait des cantines. Il y a beaucoup de secteurs de la société où ces questions se posent de manière nouvelle, de manière urgente. Et je pense que cette journée sera le point de départ d'une réflexion qui sera ensuite poursuivie par l'association Les Voies de la Paix qui sera créée, enfin qui vient tout juste d'être créée d'ailleurs et qui aura à cœur de reprendre les propositions et de les mettre en œuvre, absolument.
Donc il y a une continuité, c'est une journée, on pourrait dire, d'ouverture d'un grand projet,
d'un grand chantier qui concernera plusieurs dimensions. D'abord une dimension pédagogique très importante, y compris alors vraiment sur le terrain, y compris dans des quartiers peut-être dits difficiles. Il y aura aussi en direction du monde de l'entreprise. Vraiment, je crois qu'il y a un grand besoin. Le monde de l'entreprise le demande d'agir, de concevoir des chartes de bonnes pratiques avec tous les acteurs concernés. Et puis aussi force de proposition envers les pouvoirs publics qui, bien sûr, du fait de la laïcité si chérie de nous tous, ne peut pas directement aborder ces questions, mais ne peut pas non plus se permettre de ne pas en tenir compte. Et il me semble que les Voies de la Paix sont tout à fait intéressants d'un renouveau aussi institutionnel. C'est comme peut-être une institution médiatrice. Notre modernité s'est organisée de manière très salutaire sur l'exclusion des questions a priori spirituelles. Donc le vivre ensemble, les théories du contrat, etc. Et nous ne voulons absolument pas renoncer à cet héritage, bien entendu. L'autonomie, l'individu, ce sont des notions clés dont on ne peut plus se passer. Mais en même temps, on voit qu'aujourd'hui, désolé, je trahis ma promesse, mais le vivre ensemble peut être quelque chose de problématique. Et là, on a un problème fondamental, parce qu'on ne veut pas renoncer à ce qui constitue notre modernité politique, à savoir une exclusion, parce que les gens l'avaient fait, les contractualistes l'avaient fait au nom de problèmes réels, les guerres dites de religion. Donc nous ne voulons pas renoncer aux acquis de la modernité politique, mais on voit bien qu'on est dans une urgence de réfléchir de manière aussi plus spirituelle au problème. Et peut-être que les Voies de la Paix sont les prémices d'un type d'organisation médiatrice entre le citoyen et les pouvoirs publics, intéressant, peut-être appelé à un grand avenir.
Alors, dans cette journée, il y a une remise de prix, justement, à la remise des prix des Voies de la Paix. Quelle importance revêt à vos yeux ce prix? Qui sont les associations nominées? Comment les avez-vous choisies? Sur quels critères? Et pourquoi un prix? On aurait pu imaginer que les Voies de la Paix s'ouvrent cette année, vont avoir mettre en place ces grands chantiers que vous venez d'évoquer, et puis dans quelques années, on aurait pu imaginer des prix. Pourquoi commencer avec des prix? Quel est le sens?
Il y a plusieurs sens. Bon, d'abord, les associations remettantes sont des associations qui ont un travail sur le terrain très important. Je pense à Coexister, je pense au Carrefour des Mondes et de la Culture, je pense à la Fraternité d'Agram, je pense aussi à l'association judéo-musulmane, donc des personnes qui sont vraiment sur le terrain. Mais il y a une autre vertu à ce prix, donc qui remettra deux prix. Un prix encouragement à une jeune association qui travaille justement dans la médiation interculturelle, dans le fait de faire se rencontrer des gens qui peut-être dont les lois purement sociales ne les feraient pas se rencontrer, donc la mise en contact, la compréhension de l'autre, et un prix qui ira peut-être plus en reconnaissance d'une personnalité qui aura justifié déjà d'une vie bien remplie dans ce domaine, mais surtout, le prix sera une œuvre réalisée par l'artiste Gérard Garouste. Alors, il se trouve que j'ai vu, effectivement, cette création absolument magnifique, qui évoque rien moins que le paradis. Alors, je suis très cryptique, à la radio, ça donne pas à voir, mais je peux vous dire que cette œuvre est absolument magnifique. Et le fait que Gérard Garouste ait accepté de le faire incarne cette idée. L'art est essentiel aussi à la compréhension de l'autre. On a souligné la vertu artistique. Les spiritualités ont vocation à enrichir le débat social, y compris de manière émotionnelle et artistique. C'est fondamental.
Alors, artistique justement, parce que cette journée qui s'annonce riche de belles perspectives, mais la dimension réflexive de cette journée ne doit pas occulter, vous venez de commencer à le dire, son aspect convivial et festif qui est au cœur même du convictionnel, comme nous l'avons montré la semaine dernière. Il y a donc un concert et un buffet républicain. Le musicien Yom, que nous avons d'ailleurs eu le plaisir de recevoir plusieurs fois dans Talmudic, comme Gérard Garouste d'ailleurs, et le maître d'œuvre de la partie musicale, pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce moment musical, Rabin Boissière?
Alors, ce moment musical est une véritable création. Je pense que c'est presque un ovni. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de semblable. Tout d'abord, au niveau du texte, nous avons travaillé avec toutes les traditions spirituelles, au sens religieux et non religieuse, pour aboutir à une masse littéraire, un ensemble de textes sans syncrétisme, mais vraiment qui fait écho, qui renvoie, qui frotte. Là, on est vraiment dans la confrontation dont parlait Ricoeur, cette confrontation pacifique des imaginaires. Et puis, cette masse littéraire, on l'a remis effectivement entre les mains de Yom, qui doit être d'ailleurs en train de travailler là-dessus, mais sa patte artistique. Donc, c'est qu'un dialogue entre nous et Yom. C'est Yom qui assure la direction artistique musicale. Je pense que c'est très important d'ailleurs dans sa carrière, il va de plus en plus vers cette recherche de fusion, vers cette recherche de dialogue des cultures au niveau musical. Et en tout cas, ce moment, donc il y aura 50 minutes d'un concert absolument magnifique, illustre aussi combien les traditions spirituelles ont vocation à créer du beau. Parce que c'est ça, face au monde de fous dans lequel on vit, il y a d'une violence incroyable. Parfois, c'est tellement violent qu'on peut pas traiter directement de cette violence. Vous savez, cette phrase très très pragmatique de la tradition juive, « Sur mera ve asetov ». Écarte-toi du mal et fais le bien. C'est-à-dire que le mal est tellement, tellement mauvais que le traiter directement, c'est impossible. La seule chose qu'il y a à faire, c'est face au mal, parfois, de juxtaposer quelque chose de bien.
Amener plus de lumière.
Voilà, amener un petit peu plus de lumière. Et je pense que ces moments musicaux, créatifs, y contribuent. C'est l'un des objectifs de la journée.
Alors, dans la création, il y a la création intellectuelle, il y a la création musicale, artistique. On a évoqué Gérard Garouste. Et il y a aussi la création gastronomique.
Exactement.
Et là, on arrive au clou, si on peut dire, la fin de la journée, vers 21h, après les réflexions, les prix, la musique, les discours, parce qu'il y aura aussi les discours de la maire de Paris, de Madame Hidalgo, et d'autres intellectuels présents. La journée se conclura avec les buffets de Marianne. C'est le nom. Je sens que tous les auditeurs se demandent, mais qu'est-ce qu'un buffet de Marianne, Rabin Boissière?
Les buffets de Marianne, eh bien, c'est un buffet républicain, laïque et très goûteux. Parce que c'est ça aussi, vous l'avez souligné, les voix de la paix, avec la voix, on fait beaucoup de choses. On réfléchit, on parle, on argumente, on chante, on crée et on mange aussi. Et donc, c'est absolument essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel qu'en fait, ce moment de buffet qui clôturera la journée est adossé à un projet pédagogique très précis. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui ont réfléchi à qu'est-ce qu'un buffet laïque républicain, qui agrège plein de traditions différentes, qui respecte les convictions, mais qui crée aussi de la convivialité. Donc c'est une vraie réflexion qu'ont menée les jeunes. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas d'ailleurs, je ne préjuge pas de ce qu'ils vont trouver, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre, qui vont proposer un buffet respectueux des convictions de chacun et qui va créer du lien. Et donc il y a ce très beau projet pédagogique.
C'est-à-dire qu'ils ont appris, ils ont rencontré des personnes qui leur ont permis de comprendre ce qu'est le halal, ce qu'est qu'est le kasher, ce qu'est le bio peut-être aussi. Maintenant, on mange laïque.
Alors, absolument,
c'est nouveau.
Il y a peut-être une idée à faire fructifier derrière.
Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ce que nous avions vu la semaine dernière dans le terme de la conviction, traduite en hébreu comme emouna. Et on avait dit que le mot emouna veut dire pédagogue, c'est-à-dire amener l'enfant à l'école, amener à grandir et croître avec lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction sans savoir, sans intelligence, sans apprentissage. Et ce projet pédagogique lié à ce buffet de Marianne en est un des éléments clés, si on peut dire.
Absolument. Là, on a les deux bouts de l'élastique, en quelque sorte. Le produit final, c'est quelque chose de très goûteux, de très fraternel, effectivement, qui va réunir tout le monde. Et en même temps, ça s'est appuyé sur une réflexion, un esprit critique, une prise d'information des traditions de chacun. Et la pédagogie est centrale. Donc on a le concret, on a le goûtu et le réflexif.
Alors nous avons beaucoup insisté dans notre introduction sur la dimension du peuple au cœur de la laïcité, laos. Pas de laïcité sans un engagement de chacun et de tous, d'où l'importance que les participants à cette journée soient le plus nombreux possible et plus nombreux possible. Comment faire pour s'inscrire? Je sais que nous en avons déjà parlé la semaine dernière, mais c'est important de le répéter, Rabbin Boissière, vraiment en une ligne, parce que l'émission touche à sa fin.
Très concrètement, un site dédié à l'événement, www.lesvoixdelapaix.fr. Sur la page d'accueil, la possibilité, la nécessité de s'inscrire unis nominativement, tout en sachant que vers le 20 février, les inscriptions devront être closes. Donc vraiment, dépêchez-vous, nous comptons sur votre présence.
Voilà, c'est une journée où vous attendez presque 1000 personnes.
Absolument.
Alors merci infiniment pour ces deux émissions, Rabbin Boissière, que nous avons partagé avec vous, votre enthousiasme et le plaisir que nous sentons dans votre voix quand vous parlez de ce grand projet, fait du bien à l'âme et met en mouvement. Je sais, et c'est une conviction profonde, que les auditeurs seront très nombreux à venir vous rencontrer et participer à ce premier événement interconvictionnel des Voix de la Paix, Ken Yirbu, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire que ce soit le premier d'une longue série. Chazak ve'ematz ve'atzlacha, je vous souhaite, Rabbin Boissière, à vous et à toute votre équipe, tout le courage nécessaire et une formidable réussite. Merci encore.
Merci beaucoup.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Delphine Baudet, à la réalisation d'Annie Journeau. Vous trouverez toutes les informations de cette journée interconvictionnelle sur le site lesvoixdelapaix.fr et sur le site de Talmudique, sur lequel vous pourrez réécouter, podcaster l'émission. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.